J'en parlais en début d'émission, c'est la chronique en fait, dans le cadre de la chronique Altergo, on parle de saines habitudes de vie, ce qui tombe bien après le congé pascal où on a peut-être exagéré un peu sur la nourriture. C'est toujours bien de se faire rappeler un peu à l'ordre, mais aujourd'hui, entre autres, on va découvrir le Jarry deuxième Café Bistro qui souligne ses 3 ans le 2 avril, donc il y a beaucoup de choses qui se passent le 2 avril cette année. J'ai en studio avec moi Madame Annabelle Petit, coordonnatrice du développement et des communications de parrainage civique Les Marronniers et Jarry deuxième Café Bistro. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, quelle est la mission de parrainage civique Les Marronniers?
Alors, Parrainage civique Les Marronniers, c'est un organisme qui favorise l'intégration des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, il y a 2 volets d'action principaux. Le parrainage civique en tant que tel, qui est le jumelage, en fait, la concrétisation de jumelage entre des personnes bénévoles et des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ça, c'est la mission de l'organisme pour lequel il a été fondé, donc dans les années 80. Et depuis 3 ans, on a monté un projet en économie sociale qui s'appelle le Jarry deuxième Café Bistro, qui également favorise l'intégration de ces personnes.
Et lorsqu'on parle de jumelage entre un bénévole et une personne avec une déficience intellectuelle, c'est dans quel contexte, c'est dans quel but?
Le but, c'est donc de répondre à la mission qui est d'intégrer ces personnes-là dans la communauté, donc de leur permettre d'avoir des activités, de briser un peu leur solitude, leur isolement. Ils se jumellent par leur passion, par leurs intérêts communs. Ce sont tous des personnes adultes. C'est ça. En fait, ensemble, ils créent leur amitié. Fait qu'on est derrière pour accompagner le bénévole s'il a besoin d'aide pour ce qui est de se questionner sur la déficience intellectuelle ou des problématiques qui pourraient être reliées à l'amitié qui est en train de se créer ou d'intégration, ce genre de choses. Mais sinon, après, tout le jumelage en tant que tel se passe entre les deux personnes. On a récemment un jumelage qui est parti à Boston et qui est allé faire un voyage. La personne était intégrée dans la famille, sont allés faire voir un match de baseball, sont allés faire plein de choses, en tout cas, en voyageant.
Donc, ça, c'est vraiment, en fait, ça peut partir dans toutes les directions et c'est toujours dans le but de briser l'isolement des personnes avec une déficience intellectuelle. Et vous desservez la clientèle adulte?
Uniquement, oui.
Uniquement la clientèle adulte. Et on parle de ce bistrot, le Jarry deuxième Café Bistrot, 3 ans bientôt. Comment est-ce que c'est né, ce projet-là? Qui est invité à y participer?
Alors, il est né d'une initiative qui avait déjà débuté dans les années 2004-2005. Il y a déjà eu une première initiative qui s'appelait Mon petit café de quartier. C'était sur la rue Beaubien, dans l'est de Montréal. Et bon, après 5 ans de vie de ce projet-là, il a fermé. Et pour être réouvert, en fait, dans Saint-Michel, plus grand, plus spacieux, plus de monde aussi, plus de stagiaires. Les stagiaires qu'on accueille, ce sont des jeunes en fait, qui ont entre 18 et 35 ans, qui ont une déficience intellectuelle et qui ont un intérêt pour la cuisine et le service.
Et justement, un intérêt pour la cuisine et le service, qu'est-ce que vous mettez en place pour aider ces personnes à trouver leur place dans ce milieu de la restauration, l'hôtellerie? Ça rejoint un peu ces milieux.
Oui, alors restauration, le traiteur et le service en salle et bientôt un projet de petits plats congelés, j'en parlerai après. En fait, qu'est-ce qu'on met en place? C'est des formations, des stages. En fait, c'est un lieu de stage, Jarry deuxième. Donc, il faut que le jeune ait un intérêt pour la cuisine et le service. Va mentionner l'envie de venir faire un stage là, un stage d'une durée de 6 mois à 1 an. Et il faut qu'il ait un intervenant, un parent, un professeur, une personne qui est référente pour faire un suivi pour le stage. Et la principale importance, c'est d'être passionné de cuisine ou de service. Il faut vraiment avoir un intérêt parce qu'on vient là pour apprendre des choses. Fait que on peut garder les personnes beaucoup plus longtemps que 6 mois si jamais il y a vraiment... La personne mentionne qu'elle a encore des choses à apprendre et puis qu'elle n'est pas encore prête à aller sur le marché du travail. Et nous, on leur apprend toutes sortes de techniques en cuisine, les techniques appropriées pour servir, recevoir un client dans le restaurant, En tout cas, c'est les deux principaux volets du café bistrot.
Et vous aidez par la bande ces personnes à trouver une autonomie en cuisine. Vous leur donnez aussi des outils pour qu'ils puissent bien s'alimenter chez eux.
Oui, alors là, pour ce volet-là, en fait, c'est dans l'organisme, on organise des cuisines collectives. On les nommait pendant longtemps les cuisines collectives du monde parce qu'on faisait venir un bénévole d'une culture étrangère qui venait cuisiner avec les jeunes et les moins jeunes, parce que là, c'était plus attribué à tous les membres, pas juste les stagiaires du Café Bistrot. Donc, ils apprenaient à cuisiner de la façon du pays en question. On a décidé de changer ça en raison que les samedis étaient des périodes occupées pour les réservations de groupes et des périodes qui étaient plus propices pour faire du traiteur et de la cuisine. Donc, on a décidé de les faire le lundi où le restaurant est fermé. Fait que là, on a plus de place et on fait ça différemment. Et on ne fait plus les cuisines du monde. On a fait ça pendant un an et demi et on se renouvelle à chaque fois. Et on a décidé de partir vers un projet qui s'appelle les cuisines collectives futées. Et l'objectif est plus, selon moi, et puis selon plusieurs de nos membres, plus efficace dans le sens où on met plein de denrées sur la table. Les denrées sont données par Moisson Montréal. On met plein de denrées sur la table et on y va, on crée. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours un plan B. Savoir si jamais il n'y a pas d'idée qui sort sur qu'est-ce qu'on va pouvoir cuisiner, je vais avoir une idée quand même, là, on s'en va pas dans n'importe quoi. Mais entre eux, ils se décident, on va faire un gratin, on va faire un étager de quelconque, enfin, dépendamment de ce qu'il y a sur la table, on va faire un gâteau, on va faire toutes sortes de choses, puis on se retrouve à avoir des belles quantités de nourriture. Et puis surtout qu'à la maison, ils peuvent refaire la même chose. Qu'est-ce que j'ai dans mon frigo? Comment je vais l'utiliser maintenant?
Tout à fait, c'est vraiment dans l'idée aussi de transposer ça à la vie quotidienne.
Ah ouais, complètement. C'est pour ça un peu qu'on l'a changé, parce que la cuisine du monde, c'était très intéressant au niveau d'ouvrir un peu ces horizons-là. Quelqu'un est différent, je connais pas sa culture, j'ose pas aller vers lui. Fait qu'on allait aussi démystifier un peu les différentes cultures. À Montréal, on sait qu'il y a énormément d'immigration, puis différentes cultures, différentes bouffes, différentes odeurs, etc. Puis les personnes qui ont une déficience intellectuelle sont pas nécessairement en lien avec ces personnes-là, enfin, c'était une ouverture autant pour nous, hein, enfin pour tout le monde, c'était une super belle façon de découvrir cette partie-là. Mais là, avec les cuisines futées, on va dans une autre sphère qui est vraiment à rendre accessible la nourriture, parce qu'ils repartent avec des paniers de nourriture aussi, pas uniquement la bouffe qu'ils ont faite sur place, mais toutes sortes de denrées qu'ils vont pouvoir manger chez eux, puis partager éventuellement, puis ah, c'est ça.
Et je voulais amener ça comme information, le quartier Saint-Michel où vous êtes situé est le quartier le plus multiculturel au Canada. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment l'occasion, effectivement, comme vous l'aviez fait avec vos cuisines, d'aller à la découverte de différentes cultures. C'est souvent une belle porte d'entrée, la nourriture. Est-ce que le secteur de la restauration, est-ce qu'après avoir fait un stage au Jarry Deuxième, est-ce qu'il y a de vos stagiaires qui se sont trouvés un emploi dans la restauration par la suite?
Oui, on en a quelques-uns. Quelques-uns se sont trouvés un emploi. Nous, on est un lieu de stage uniquement. On ne fait pas de placement. On n'a pas le service d'intégration sur le marché de l'emploi. On aimerait bien, à long terme, avoir ce service-là. Actuellement, il y a plusieurs autres organismes qui participent à ce volet-là. On a 4 jeunes qui se sont trouvés un emploi. Des emplois plutôt précaires, on dira pas que c'est la solution miracle, et puis un emploi valorisant, mais c'est une première étape.
Tout à fait, c'est une première étape. Vous êtes dans la 4e semaine d'une campagne annuelle de financement. Votre objectif est de 10 000 $ et vous me disiez hors d'onde qu'on est sur le point d'atteindre l'objectif.
Oui, on est vraiment, vraiment, vraiment surpris, très heureux. On est à 48 $ de notre objectif.
48 $ donc on est à 9 952 $. C'est génial. Donc, s'il y a des auditeurs qui nous entendent et qu'ils veulent être les premiers à combler cet écart, où est-ce qu'on va? Et surtout, pouvez-vous nous dire à quoi vont servir ces dons pour atteindre le 10 000 $? Ce sont des projets que vous financez.
Oui, on finance une partie. En fait, cette campagne de financement, c'est une première dans l'objectif, d'atteindre 10 000 $. L'année dernière, on était allé chercher 6 000 $ et puis avant ça, des montants moindres. On avait un objectif plus précis cette année, c'était de refaire une partie de notre cuisine. En fait, c'est l'agrandir. parce qu'on développe un service de plats congelés. Il y a quelques mois qu'on est là-dessus. Donc, des plats congelés qui vont être à faible coût pour certains plats. Et puis, on cible différentes clientèles, donc différents types de plats aussi. Et ce sont les jeunes qui vont fabriquer, enfin, qui vont faire ces plats-là. Et donc, ça nous prend une cuisine adaptée, plus grande, avec plus de congélateurs, des espaces pour travailler. Donc, une grosse partie de ce 10 000 $ va s'en aller dans le réaménagement de notre cuisine.
Et on parle de plats congelés. Est-ce que c'est pour subvenir à d'autres besoins qui vous ont été manifestés ou c'est différent du service de traiteur que vous avez déjà?
Oui, ben on va pouvoir quand même offrir à des entreprises un service de plats congelés. Ils peuvent arriver chauds ou froids, dépendamment des besoins des employés d'entreprise. Mais c'est sûr qu'il y a une partie des plats congelés qu'on souhaite à très moindre coût pour qu'ils puissent être accessibles pour les personnes qui sont vieillissantes, avec une déficience intellectuelle et qui ont un réel besoin de s'alimenter dans la facilité. Donc, c'est des plats super bien préparés, frais, qui pourraient être livrés aussi en fonction de la quantité, etc. Fait que, des points de chute un peu partout dans Montréal. Enfin, sur le développement, il y a beaucoup de choses à faire.
Super, c'est vraiment formidable de voir cette initiative grandir et aller toucher plus de gens. En terminant, si on veut aller au bistrot pour goûter le menu ou tout simplement vous soutenir dans vos activités.
Ben, retenez le nom, c'est Jarry et Deuxième. Fait que c'est les rues Jarry et Deuxième Avenue. C'est vraiment à l'angle de ces rues-là. Pour ce qui est de toute l'information sur notre site internet, www.bistrojarrydeuxième.com.
On va mettre aussi les liens sur la page de l'émission. Merci beaucoup, Madame Annabelle Petit. Vous êtes coordonnatrice du développement et des communications du parrainage civique Les Marronniers et Jarry Deuxième Café Bistrot. Bon succès.
Merci.